Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Kaose, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Oginome Yoko. On parlera ensuite de 3 mangas des éditions Glénat. On aura la chronique du volume 5 des Enfants de la Baleine, la chronique du volume 6 du Couvent des Damnés et la chronique du volume 8 de Gangsta. On aura ensuite un petit point sur les sorties mangas de la semaine. On continuera à parler culture avec le wasabi, l'or vert de la cuisine japonaise qui a été piqué par la pandémie. On aura ensuite une petite actualité au Japon. On parlera du patron des JO de Tokyo qui s'est excusé après ses propos sexistes. Et enfin, on finira l'émission avec une news musicale concernant Atiz et le membre Mingi qui ne participera pas à la promotion de Zero Fever Part 2. On commence donc l'émission avec la première chanson. C'est Troy de Misaruka. Et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Oginome Yoko. c'était Miss Haruka avec la chanson Troy. On passe maintenant à l'artiste de la semaine. On va parler de Oginome Yoko, ou encore appelée Tsujino Yoko, ou encore Yoko. Alors, c'est une actrice, seiyuu et idol japonaise, chanteuse de funk, pop et rock, qui est née le 10 décembre 1968. Elle est donc âgée de 52 ans et elle est née à Kashiwa, Ashiba, au Japon. Elle a fait ses débuts en 1979 et elle est toujours en activité aujourd'hui, sous l'agence Rising Production. Yoko Oginome, de son nom d'épouse Yoko Tsujino, débute encore enfant au sein du groupe J-pop Milk, le temps de deux singles, puis elle commence ensuite sa carrière en solo en 1984, pour connaître le succès dès l'année suivante avec son tube Dancing Hero, Eat You Up. Elle sort ensuite des disques régulièrement jusqu'en 1995, puis se fait ensuite plus discrète. Elle commence une carrière d'actrice en 1986 et participe à divers programmes télé. Elle est la sœur de l'actrice Keiko Oginome. Et enfin, en 2001, elle se marie au joueur de tennis Ryusou Chujino, avec qui elle aura 3 enfants. Donc, côté discographie, on a un total de 21 albums. Le premier, Teens Romance, qui est sorti le 5 septembre 1984. Et le dernier, Golden Best, qui est sorti le 16 septembre 2009. On a un cover album, Dear Pop Singer, qui est sorti le 20 août 2014. 40 singles, le premier Sayonara Kara Hajimaru Monogatari, qui est sorti le 21 juillet 1984. Et le dernier, Dancing Hero The Archives, qui est sorti le 20 décembre 2017. Elle a aussi participé à 13 compilations, la première Oginome Yoko The Best, qui est sorti le 25 décembre 1985. Et la dernière, Heartbeat Ishoni Kanjitai Shiawase no Kodo, qui est sorti le 4 novembre 2020. Elle a aussi sorti 3 vinyles, le premier December Mimori, qui est sorti le 5 novembre 1984, et le dernier Kitakaze no Carole, qui est sorti le 27 octobre 1987. Elle a participé à 3 OST, l'OST de City Hunter, Bay City Wars et Complot pour 1 million de dollars en 1990, Nicky Larson Sun Collection X Theme Songs en 2005, et Haruko no Eiya Amachan 80s It's Victor Edition, qui est sorti en 2013. Et enfin, elle a interprété un générique de drama, le générique Dancing Hero Eat You Up, pour le drama Height Position, qui est sorti en 2020. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Yoko Oginome, extraites du cover album Dear Pop Singer. Vous allez reconnaître les chansons forcément. On va s'écouter, pour commencer, 99 Balloons. Et on reviendra juste après pour parler du volume 5 des Enfants de la Baleine.
We'll be right back.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Yeah.
Donc c'était Yoko Oginome avec la chanson Hot Stuff Koino Kakeiki. On passe maintenant à la chronique du volume 5 des Enfants de la Baleine. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, aventure, drame, fantasy, mystère qui a été écrit par Umeda Abi et prépublié dans le Mystery Bonita. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 18 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 15 tomes. Ce volume 5 est sorti le 2 novembre 2016 au prix de 6,90€. Le résumé du tome, la menace des troupes Apatoya s'éloigne enfin de Falena. Habitué aux douloureuses séparations, le peuple de l'île espère enfin faire une nouvelle rencontre. Des voyageurs venus d'un pays inconnu s'apprêtent à monter à bord du vaisseau. Au même moment, Chakuro, guidé par la mystérieuse Emma, entame un nouveau voyage, une plongée au plus profond de l'histoire de la baleine de glaise. Donc l'infiltration du Nu Skylos s'est faite au prix de nombreuses morts, mais Oni, ayant perdu le contrôle de son Seimia suite à la disparition de Nibi, a pu provoquer le naufrage du navire ennemi, éloignant par la même occasion la menace à Apatoya. Toutefois, la vie normale n'a pas le temps de reprendre sur Falena, car la baleine de glaise voit s'approcher un nouveau navire venu d'un pays inconnu. Ami, ennemi, seule la rencontre avec Roxalito, le chef du navire, le dira. Pendant ce temps, Chakuro, lui, retrouve l'énigmatique Emma, prête à le plonger dans une part du passé de la baleine de glaise. Donc que ce soit sur sa jaquette ou à l'intérieur avec ses planches riches, contemplatives et au design travaillé qui bluffent de nouveau, Abi Umeda captive par l'ambiance indescriptible que dégage son récit, pourtant plus calme ici que dans le tragique volume 4. Mais cet aspect plus calme permet surtout à la mangaka d'étoffer considérablement son univers par le biais de trois axes principaux. Donc tout d'abord, l'arrivée sur la baleine de glaise du dénommé Roxalito et de ses troupes, qui dit se ficher des différences culturelles et accepter les habitants de la baleine tels qu'ils sont. Mais est-ce vraiment le cas? Ou ce nouveau venu nourrit-il certaines ambitions? Peut-être se laissera-t-il toucher par le désir de Suo et des autres habitants de l'accueillir on ne peut plus pacifiquement, dans l'espoir de trouver ici non pas une nouvelle menace pour leur vie, mais bel et bien un allié, un ami. Une chose est sûre, l'arrivée de Roxalito permet d'éclairer pas mal de choses sur l'état du monde. Ensuite, il y a le voyage de Chakuro dans cette facette du passé de la baleine de glaise, point de départ de plusieurs informations qui ne cesseront ensuite de s'enrichir via différents événements et plusieurs révélations. Il reste des choses à dire sur le passé de ce mystérieux navire, mais enfin nous voici avec un peu plus de réponses concrètes. Enfin, une partie de volume se consacre au retour d'Orca au sein de l'Empire, le commandant en chef des troupes Apatoya devant désormais assumer sa défaite. À moins qu'il ne trouve une parade révélant beaucoup de choses, le choix de l'Empire de contrôler les émotions du peuple pour mieux le contrôler, sous prétexte que ces émotions humaines ne provoquent que heurts et disputes, le conflit dans lequel est engagé ce même Empire, mais aussi l'ambiguïté d'Orca, personnage à la noirceur certaine, je vais y arriver, mais aussi ambivalent. Il milite pour la répression des émotions du peuple, mais côtoie des gens qui ont des émotions et rit avec eux. Nul doute que le frère de Lycos n'a pas fini d'intriguer. Et il y a pas mal d'autres choses qui intriguent. Le retour d'un personnage que l'on pensait disparu, les révélations sur le nous, des révélations sur le rôle des Daimona et sur celui des Kokalo, la présentation succincte des deux factions du gang des taupes, la connotation religieuse de nombreux termes, la perspective d'un voyage véritable qui commence enfin pour la baleine et ses habitants, et bien sûr l'information assez terrible sur la source du Saimia qui fait flotter Falena, et qui rend encore un peu plus dure la relation des habitants avec ce navire qu'ils chérissent tant. En somme, ce cinquième tome est un peu celui des révélations et de l'ouverture sur un monde plus vaste, dont il reste encore beaucoup à découvrir. Abi Umeda reste globalement bien maîtresse d'un récit qui continue de fasciner. Voilà, donc Les Enfants de la Baleine à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Kujira no Kora wa Sajo ni Otaou. Donc c'est Sono Sakie interprété par Ririko et on reviendra juste après pour la chronique du volume 6 du Couvent des Damnés.
Shimeta, ai no kakera.
Donc c'était Ririko avec la chanson Sono Sakie qui est servie de premier opening pour l'anime Kujira no Korawa Sajoni Utao. On passe maintenant à la chronique du volume 6 du Couvent des Damnés. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame historique qui a été écrit par Takeyoshi Minoru, traduit par Yohan Leclerc et prépublié dans le Geekan Spirits. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 6 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 6 tomes. Ce volume 6 est sorti le 6 juin 2018 au prix de 7,60€, et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence. Donc le résumé de ce tome, 16e siècle, Saint-Empire romain germanique. Tandis que l'ordre du Claustrum poursuit ses expériences cruelles et ses projets de manipulation des foules, Ella attend patiemment le jour où elle fera face à Dame Edelgard. L'heure d'accomplir sa vengeance approche. Donc l'ordre du Claustrum veut répandre des épidémies, une catastrophe qu'Ella et sa bande doivent éviter à tout prix. Suite à un plan bien préparé, Hilde est celle qui va tenter de s'évader afin d'alerter le reste du monde des intentions malveillantes de l'ordre. L'évasion est vite remarquée et tout le couvent est en alerte, ce qui n'augure rien de bon pour Hilde. Donc avec ce 6e tome, la série de Minoru Takeyoshi touche à sa fin, une série qui se sera montrée globalement prenante, notamment grâce à sa bande de personnages forts. Pourtant, il n'était pas simple d'envisager la fin dès ce 6e volume, puisqu'à ce stade, Ella et ses compères n'ont même pas atteint la moitié de leur séjour au couvent du partage des eaux. Ainsi était-il possible d'amener le titre à sa conclusion. L'auteur nous donne une réponse positive à travers un tome particulièrement riche en événements et qui propose une fin définitive sans aucun air de conclusion précipitée. Bon, enfin, pas tout à fait. On peut éventuellement sentir une certaine hâte dans la manière d'amener directement Ella à la fin de sa scolarité, le mangaka faisant ainsi l'impasse sur de longs mois où Ella et sa bande auraient pu connaître bien d'autres déboires. Une ellipse pourtant justifiée par les événements de début de tome qui font partie des plus dramatiques de la série à l'heure actuelle. Il est question de mort tandis que l'auteur n'hésite pas à casser littéralement la bande formée par Ella depuis le début. Aller un peu plus loin dans le temps lui permet d'embrayer sur l'arc final de la série et aussi utiliser tous les pions mis en place dans les chapitres précédents. Un mal pourra bien donc, car il aurait peut-être été difficile de traiter toute cette phase où Ella se retrouve presque seule, sans que l'intrigue tourne en rond. Alors, après une séquence d'introduction intense et mouvementée, les trois derniers quarts du volume entament l'arc final, un ultime cycle où les rebondissements seront nombreux, afin que la série atteigne la conclusion voulue par l'auteur. La grande force de ce volume est de proposer énormément d'événements, de retournements de situation, d'évolutions de personnages, le tout de manière à développer le mieux possible tout ce qui a été instauré dans le couvent des damnés depuis le début et ne pas laisser de part d'ombre. Minoru Takeyoshi donne ainsi un rôle à chaque petit élément planté dans la série depuis le premier tome, même à des personnages qui semblaient anecdotiques jusqu'ici car éloignés du combat que menait Ella. Du côté des camarades de l'héroïne, chacun parvient à s'émanciper et avoir un rôle qui lui est propre, plutôt que de vivre éternellement dans l'ombre de l'héroïne. C'est en particulier Hilde qui va magnifiquement briller et gagner en détermination, jusqu'à devenir l'un des personnages les plus forts de la série, elle qu'on avait tendance à sous-estimer dans le premier opus. Enfin vient l'une des idées centrales du couvent des damnés, présentée dans l'introduction du premier tome et qui monte petit à petit dans ce volume, la glorification d'Ella. L'auteur avait créé un certain doute sur la statue de la Vierge de Fer présentée en tout début de série, mais la nature de celle qui était représentée restait incertaine. Ce doute va planer jusqu'à la toute fin puisqu'un parallèle plutôt habile et intéressant entre Ella et son ennemi juré Edelgard monte jusqu'à la confrontation finale. L'idée est évidemment de magnifier cette héroïne forte et passionnante qu'est Ella, un effet totalement réussi dans cette fin, notamment parce que le personnage ne cesse de gagner en charisme tout au long du tome, quitte à ce qu'il devienne parfois impitoyable, mais en connaissance de cause. Vient enfin la conclusion, le moment qu'on redoutait un tout petit peu tant on ne l'imaginait pas arriver tout de suite. Sur son dernier tiers, le tome se concentre sur les événements qui aboutiront à cette fin, une certaine révolte notamment. Donc la fin que nous propose ici Minoru Takeyoshi est sans ouverture aucune et s'avère logique. Une force puisqu'on peut refermer ce 6e tome sans la frustration que l'on connaît dans bon nombre de titres à la finalité mal amenée, mais qui peut légèrement agacer dans l'absence de surprise. Le couvent des damnés se termine comme la série doit se finir et ne cherchera pas à prendre son lecteur par surprise. À la place, le mangaka amène cette fin grâce aux moult clés scénaristiques mises en place depuis un moment et à l'évolution de ses personnages centraux, un verdict qui est donc plus qu'honorable. On notera aussi que l'auteur se paie le luxe d'un petit épilogue pour montrer le devenir des personnages, puisqu'une ouverture sur un possible nouveau combat d'Ella, il dévoile la nature des survivantes, ce qu'elles deviennent et quel genre de vie elles sont menées à connaître. On apprécie notamment parce que ça évite à la série de se terminer de manière trop abrupte. C'est donc sur une très jolie note que se termine Le Couvent des Damnés, série de Minoru Takeyoshi. Le titre se sera montré globalement très bon, passionnant grâce à ses personnages, et particulièrement bien rythmé tant l'auteur a mis des obstacles sur la route de ses héroïnes, avant d'amener leur périple à son dénouement. On relira avec plaisir l'entièreté de la série d'une traite, notamment pour apprécier à quel point l'auteur avait disséminé subtilement les éléments de sa fin depuis le début. Pour le reste, on gardera un très bon souvenir des aventures d'Ella et de ses camarades, des héroïnes fortes et attachantes qu'on aurait aimé connaître un peu plus longtemps. Voilà, donc Le Couvent des Damnés à retrouver en 6 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Honto no Koi de Miss Monday. Et on viendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
¡Suscríbete al canal!
Donc c'était Miss Monday avec la chanson Honto no Koi. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi dès février aux éditions Delcourt Tonkam avec le volume 1 de Ayako l'Enfant de la Nuit et le volume 10 de Innocent Rouge. Aux éditions Kazé, on aura le volume 16 de Beyblade Burst et le volume 18 de The Promised Neverland. Aux éditions Soleil, on aura le volume 4 du Dragon et la Nonne qui sera le dernier tome de la série, le volume 3 du Puissant Dragon Vegan, le volume 1 de Stray Cat and Sky Lemon et le volume 10 de This Teacher Is Mine. Et aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 6 de Orient Samurai Quest. Pour jeudi 11 février, aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 2 de Comme sur un nuage, le volume 1 du Siège des Exilés, le volume 3 de Switch Me On et le volume 2 de À nos fleurs éternelles qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Kurokawa, on aura la sortie du volume 1 de Demon Slave, le volume 10 de Goblin Slayer, le volume 6 de Hippo la saison 6, le volume 4 de Kaijin Reijo, le volume 21 de Real Account, le volume 4 de Schwartz Ragnarok qui sera le dernier tome de la série, le volume 15 de Silver Spoon qui sera également le dernier tome de la série. On aura également le volume 12 de Silver Wolf Blood Bone et le volume 3 de Spy X Family. Aux éditions Omake Books, on aura la sortie du volume 1 de Many Reasons Why. Aux éditions Hachette, on aura le volume 14 de Naruto. Et aux éditions Dynamite, on aura le volume 1 de Naughty Girl. La dernière sortie de la semaine, ça sera pour vendredi 12 février aux éditions Chato Chato avec le volume 4 de Dragon Metropolis. Voilà, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Are You Ready to Rock d'Okosu de Miyavi et on reviendra juste après pour parler culture avec le Wasabi. Science.
Fireworks! Freeworks. 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 Life is like riding through sand. I'm a true. Life is like riding through sand.
C'était Miyavi avec la chanson « Are you ready to rock » d'Okosu. On passe maintenant à la partie culture. Donc à cause de la faiblesse de la production, la quasi-totalité du wasabi d'Izu est acquise par des grossistes de Tokyo et Osaka, dans l'ouest du Japon, qui le revendent principalement à des restaurants haut de gamme. Toshiya Matsushita, chef d'un restaurant huppé de sushi à Tokyo, n'imaginerait pas utiliser du faux wasabi. Alors, je cite « Le wasabi frais, tout en escamotant l'odeur du poisson cru, en rehausse le goût. Il est piquant, mais avec des notes sucrées. Le goût, la texture et le piquant sont différents selon la façon de le râper. » Donc cette exigence a un coût. Monsieur Matsushita, qui utilise une racine par jour, râpée au fur et à mesure des commandes car le piquant du wasabi frais s'évapore en 20 minutes, dit y consacrer l'équivalent de plus de 600 euros par mois. En raison de son prix élevé, la plupart des consommateurs, même au Japon, ignorent donc la vraie saveur du wasabi. Pendant l'état d'urgence au Japon en avril-mai, les restaurants ont fermé complètement, se souvient l'agriculteur Yoshihiro Shioya. Les grossistes qui ne recevaient plus de commandes ont donc demandé aux producteurs de ralentir leurs expéditions et l'impact du coronavirus perdure encore maintenant. Les restaurants ont rouvert, mais ils accueillent moins de clients qu'avant et la consommation est loin de ses niveaux d'avant-pandémie, explique Monsieur Shioya. Pour diversifier leur clientèle, les producteurs de wasabi en ont vendu une partie à des chaînes de supermarchés au Japon. Donc, conséquence insolite de la crise, cela a permis à des consommateurs de découvrir le wasabi authentique. Les effets économiques ont cependant été limités car les gens ne sont pas habitués à acheter des produits aussi chers au supermarché, ajoute Monsieur Shioya. Pour populariser davantage le wasabi, la petite entreprise Yamamoto Foods, à une heure de route des plantations d'Izu, s'est spécialisé dans la vente de produits à base du précieux condiment. On peut aussi consommer les tiges, les fleurs et les feuilles du wasabi, explique Mayumi Yasumori, chef de boutique de Yamamoto Foods. L'entreprise utilise ces parties du wasabi pour en faire des sauces, des copeaux à saupoudrer sur du riz, du sel, de la mayonnaise et même de la crème glacée. Nous voulons faire savoir que le wasabi n'est pas seulement un figurant dans la cuisine, mais qu'il peut aussi avoir le rôle principal, plaide Madame Yasumori. Donc voilà, c'est ce qui termine cette partie culture sur le wasabi. On parlera d'autre chose la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est Shirofue no Yobigoe de Miyu Tomita, et on viendra juste après pour la chronique du volume 8 de Gangsta.
Maybe.
Donc c'était Miyu Tomita avec la chanson Shirofue no Yobigoe. On passe maintenant à la chronique du volume 8 de Gangsta. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, drame, psychologique, tragique qui a été écrit par Kosuke, traduit par Fujimoto Satoko et prépublié dans les Shukan Comic Bunch et Gekkan Comic at Bunch. La version japonaise est parue aux éditions Shinshosha avec un total de 8 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 8 tomes. Ce volume 8 est sorti le 20 mars 2019 au prix de 7,60€ et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence. Le résumé de ce tome, Marco a tourné le dos au passé. Striker s'y accroche désespérément. Deux hommes nés dans les ténèbres, deux âmes entières qui se percutent tels deux amants déchirés par une rupture. Un va-et-vient perpétuel entre le présent et le néant. Donc après presque 3 ans d'attente entre le tome 7 et le tome 8, Gangsta fait son grand retour avec un 8e opus toujours aussi marquant et oppressant. La brigade Esminet continue de faire des ravages à Ergastulum, mettant les indexés au pied du mur. Les alliances d'hier ne sont plus, plongeant toujours plus la ville dans le chaos, mais l'espoir a-t-il complètement disparu ? La première chose qu'on peut dire, c'est que ce tome était attendu. Pas mal de séries connaissent un destin tel que celui de Gangsta, un destin dépendant de la santé de son auteur. Donc, après ces 3 années d'attente, on peut remercier Kosuke d'avoir persévéré malgré ses problèmes de santé, mais aussi Glénat pour ne pas avoir abandonné cette série. Et autant dire que l'attente valait le coup. Ce tome 8 nous tient en haleine du début à la fin, avec pour commencer un aperçu des différents fronts lors de ce chaos grandissant à Ergastulum. On a l'occasion de revoir tous ces visages qui nous sont si chers, et même s'il y a très peu de paroles, les dessins et la mise en page de Kosuke sont toujours aussi efficaces et bouleversants. On s'est tellement attaché aux personnages qu'on a presque l'impression de se prendre de plein fouet tous leurs sentiments, rien qu'en les regardant. Puis, après ce petit tour d'horizon, nous reprenons l'affrontement entre Marco et Striker, là où le tome 7 l'avait laissé. La force du lien entre Marco et Constance est palpable, le combat nous laisse avec le souffle court, et même si Striker est le méchant de l'histoire, on ne peut quand même pas s'empêcher de ressentir de la compassion à son égard, en comprenant que Marco, ou anciennement Space, était quelqu'un de vraiment très cher à ses yeux. Cet affrontement se termine d'ailleurs dans le dernier tiers du tome, nous laissant sur une fin tragique et douloureuse, mais malgré tout vraiment belle, pour deux personnages auxquels on s'était profondément attachés. Et pour conclure, les toutes dernières pages nous laisseront encore avec encore plus de questions que de réponses quant à la suite du récit, dont on espère d'ailleurs qu'elle ne se fera pas trop attendre. Voilà, donc Gangsta a retrouvé pour le moment en 8 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Gangsta, c'est Renegade de Stereo Dive Foundation. Et on viendra juste après pour une actualité au Japon.
しまっていたから憎しみとか哀れみさえ自分犠牲で片付けたんだ Take away and do for me 答えのない世界でも Carry on and bring it down
Donc c'était Stereo Dive Foundation avec la chanson Renegade qui a servi de premier opening pour l'anime Gangsta. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Yoshiro Mori, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, a présenté ses excuses jeudi dernier pour des propos sexistes qu'il avait tenus la veille et il a évoqué l'éventualité de démissionner s'il y était contraint. Il s'était notamment félicité que les femmes membres du comité d'organisation de Tokyo 2020 savaient rester à leur place. Donc les propos du patron des JO ont fait réagir, forçant l'ancien premier ministre japonais à prendre la parole. Je cite « Si les appels à ma démission deviennent plus forts, je pourrais être obligé de quitter mon poste », a déclaré Yoshiro Mori au quotidien Mainichi. « J'aimerais présenter mes excuses », a-t-il ajouté, assurant avoir parlé sans réfléchir. Toutefois, il n'a pas l'intention de démissionner pour le moment. Donc mercredi dernier, cet ancien premier ministre du Japon, qui a donc officié de 2000 à 2001, âgé de 83 ans, s'était plaint que les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prenaient beaucoup de temps, car elles ont, selon lui, du mal à finir leurs interventions, selon des propos rapportés par le journal nippon Asahi. Je cite « Les femmes ont l'esprit de compétition, si l'une lève la main, les autres croient qu'elles doivent s'exprimer elles aussi. C'est pour ça que tout le monde finit par parler », avait-il développé lors d'une réunion avec le comité olympique japonais qui était ouverte à la presse. Monsieur Mori s'était aussi félicité que les femmes membres du comité d'organisation de Tokyo 2020 sachent rester à leur place. Ni le service de presse de Tokyo 2020 ni le porte-parole du gouvernement japonais Katsunobu Kato n'ont réagi officiellement aux propos de Monsieur Mori pour l'instant, mais ces déclarations ont déclenché des réactions outrées sur les réseaux sociaux au Japon, avec les mots dièses « ça suffit »,« misogynie » ou encore « nous exigeons la démission de Yoshiro Mori » parmi les tendances sur Twitter. Reno, une figure de l'opposition parlementaire au Japon, donc qui s'appelle Reno Murata en réalité et qui n'utilise que son prénom dans sa carrière politique, a qualifié de honteux les propos de M. Mori qui vont selon elle à l'encontre des valeurs olympiques opposées à toute forme de discrimination. D'anciens athlètes japonais ont eux aussi réagi, comme Kaori Yamaguchi, ancienne judoka et membre du comité olympique japonais, qui a jugé malheureux les commentaires de M. Mori. L'égalité des sexes est censée être un prérequis pour organiser les Jeux de Tokyo, a-t-elle ajouté. Yoshiro Mori, connu pour avoir déjà commis de nombreux impairs, notamment quand il était Premier ministre du Japon, a aussi provoqué en début de semaine dernière une autre controverse, en affirmant haut et fort que les JO de Tokyo se tiendraient cet été, quoi qu'il arrive, donc concernant l'évolution de la crise sanitaire qui se passe donc actuellement dans le monde. Jeudi dernier, un comique japonais populaire, Atsushi Tamura, avait annoncé sur YouTube qu'il renonçait à participer au relais de la flamme olympique après les propos péremptoires de M. Mori sur les Jeux. Il les a jugés incompréhensibles au regard de la pandémie qui touche aussi le Japon. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est 99 de Mob Choir. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. To let you learn the good and you took on it.
Darling!
99, on va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Annoncée il y a quelques jours, le groupe sud-coréen ATEEZ fera son retour le 1er mars prochain avec leur sixième mini-album Zero Fever Part 2. L'agence du groupe KQ Entertainment avait annoncé le 5 février sur leur fan café que Mingi ne participait pas à la promotion de l'album. En effet, en novembre dernier, l'agence avait annoncé que le jeune homme souffrait d'anxiété et que sur avis médical, il mettait en pause ses activités au sein d'ATEEZ. Depuis, son état s'est amélioré, mais il semblerait que Mingi ait encore besoin de temps pour être totalement rétabli. En revanche, l'agence précise qu'il sera donc présent au niveau de la piste, au chant quoi, pour les chansons qui ont été enregistrées avant novembre et donc sa pause. Il ne nous reste donc plus qu'à souhaiter à Mingi un prompt rétablissement. Voilà, donc pour terminer l'émission, on va s'écouter Dazzling Light de ATEEZ. Vous pourrez me retrouver vendredi prochain pour l'émission Cordialement Geek. Et sinon, ça sera lundi prochain pour une nouvelle émission Asian Bubble de 21h à 22h. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt.
Doesn't really light 내게 손짓